différentes, si j'ose dire, manipulations, les différentes actions qui ont été faites pour pouvoir construire le Mishkan. Alors, nous allons quand même lire un certain nombre de versets et étudier avec Rashi. Avant cela, je vous dirai, si vous voulez, le thème général qui va orienter notre étude. Mais comme d'habitude, je vais vous demander, vous savez que je suis très traditionnaliste, alors je vais vous poser une question rituelle. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Ouvrez le rideau. Là.
Dans la
paracha
de la semaine dernière,
oui.
C'est un peu général. On dit que les Hébreux sont sortis très très vite d'Égypte.
Parlez plus fort.
On dit que les Hébreux sont sortis très vite d'Égypte.
Bon.
Et pour la construction du Mishkan, il y a tellement de matériel, il y a même de la teinture rouge. Alors comment ils ont fait enlever tout ça?
Ah ben, très bien. Oui, c'est une bonne question d'ailleurs pour le sujet qu'elle touche et puis du point de vue de la méthode. J'ai fait allusion, je crois, à la dernière étude, la semaine dernière, je dirais si c'est à ce cours-là. C'est que, au fur et à mesure de l'étude du texte de la Torah, on s'aperçoit que différentes questions se posent, en particulier de ce genre, parce qu'on a lu un peu plus dans l'ensemble du texte de la Torah. Ce que je veux rappeler, c'est que pour bien comprendre un verset, et telle ou telle question qui est induite par ce verset en particulier, il faut connaître tous les autres versets. Alors, à partir du moment où vous avez lu suffisamment de textes déjà, ça vous arrivera de vous poser des questions que vous n'avez pas pensées avant. Eh bien, ceux qui ont lu l'ensemble du texte de la Torah, quand je dis la Torah, c'est sur le Pentateuque, donc les cinq livres, le récit du Pentateuque, vous rappelez que au moment de la sortie d'Égypte, il y a quelque chose de une consigne particulière qui a été donnée à Moïse. Moïse devait recommander, et c'est une chose paradoxale comme nous allons le voir, Moïse devait recommander aux Hébreux de demander à leurs voisins égyptiens, tenez-vous bien, des cadeaux avant de repartir d'Égypte. Vous vous rappelez de ce texte-là? Bon. Effectivement, lorsque dans le Talmud et dans le Midrash, on se pose cette question, où s'est-on fourni de tous ces matériaux pour la construction du Mishkan? Alors la première réponse, c'est pour la majorité de ces matériaux, cela résultait des valeurs, mettez le mot valeur entre guillemets, ça a à la fois le sens matériel, une valeur, comme par exemple l'or, l'argent sont des valeurs, et en même temps ça a le sens spirituel, parce que, je vous donne un exemple, mais j'essaierai de ne pas quitter le sujet. Vous avez dû remarquer, pour ceux qui ont lu ces différentes parachutes, de Troumat et de Savé, aussi dans Kitissa, mais surtout dans Rekel et Pekoudé, que les trois matériaux de base, c'était l'or, l'argent et le bronze. Le cuivre, le bronze, les rochettes, comment on traduit? C'est le cuivre. Comment on dit le bronze déjà?
Bronze.
Hein?
Arad.
Arad. Bon, ça c'est dans les Jeux Olympiques. Là. Mais il me semble que le nechochet biblique, c'est pas du cuivre pur et simple. C'est plutôt du bronze que du cuivre. Bon, il me semble. Bon, il faut vérifier. Tous les commentateurs qui abordent ce problème du parallèle de niveau, tout ce qui se passe en bas se passe aussi en haut, tout ce qui est dans l'ordre matériel a une correspondance dans l'ordre spirituel, et réciproquement, tout ce qui est dans l'ordre spirituel a une correspondance dans l'ordre matériel. Ce sont des études auxquelles vous n'êtes pas habitués, qu'on étudie surtout dans les livres de Kabbalah, parce qu'il y a des parallèles, des analogies, des relations qui ne sont pas du tout du propre de l'ambiance de la culture générale dans le monde occidental depuis 2000 ans, gréco-romain. Alors que dans d'autres traditions, on est beaucoup plus familier. Et dans cette correspondance-là, vous savez que les trois grandes valeurs de base, Chesed, Din, Rachamim, correspondent à... Alors, donnez-moi dans l'ordre. Chesed correspond. Exact, mais plus lentement. Ce qui correspond à Chesed, c'est Kesef. Ce qui correspond à Din, c'est Zahav. Et ce qui correspond. Non, c'est l'inverse. Et ce qui correspond à Din, c'est Nechoshet. Ce qui correspond à Rachamim, c'est Zahav. Et par conséquent, ça implique que dans l'intention, les kavanot des offrandes qui étaient apportées, il y avait un parallèle en même temps que le Zahav, il y a la Mida correspondante. En même temps que le Kesef, il y a la Mida correspondante. Alors voilà quel est le problème. Mais une autre source, qui est que, dans le Midrash, qui va beaucoup plus loin, c'est que lorsque Israël a quitté l'Égypte, l'Égypte a été vidée de toutes ses richesses, mais le mot est matériel, il faut dire valeur. Je ne sais pas si c'est hier. Non, attendez, nous sommes quel jour aujourd'hui? Donc ça doit être hier, au cours de Haggadah. J'avais fait allusion à cela. C'est qu'il y avait encore une fois un paradoxe dans l'attitude, surtout dans les périodes de fin d'exil, des nations chez qui les Hébreux, les Juifs sont en exil, qui d'une part, qui ont une attitude très ambivalente vis-à-vis de leurs Juifs. D'une part, il y a une haine évidente, et d'autre part, un refus de les laisser partir. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Vous diagnostiquez cela historiquement. C'est très paradoxal. Et subitement, il arrive que ce nœud se dénoue, et c'est en particulier ce que nous avons vécu avec l'exode des Juifs de Russie et ceux des Juifs d'Éthiopie. Ils ont été moins empêchés. Je dirais que l'empêchement pour les Juifs d'Éthiopie avait commencé du côté d'Israël, beaucoup plus que du côté des Éthiopiens Goy. Je ne sais pas si vous avez suivi ces péripéties. Bon, ce n'est pas que l'État d'Israël est raciste, c'est pire, il est juif. Mais pour revenir au sujet, c'est que c'est surtout en Russie qu'on s'aperçoit d'un dévoilement, d'un déferlement de l'antisémitisme russe qui est corollaire d'une volonté des Juifs de quitter la Russie, mais d'un empêchement de la Russie de laisser les Juifs quitter la Russie. Bon, il peut y avoir des explications à différents niveaux sociologiques. Il y en a une d'ailleurs que je voudrais rappeler, honnêtement, c'est le mot, mais je veux dire pour être un peu complet, un argument des Russes d'ailleurs à ce sujet, en disant nous avons payé l'éducation de ces Juifs, et beaucoup d'entre eux sont des cadres du pays, et en particulier des cadres militaires, au courant de secrets militaires russes, on ne va pas laisser partir. Je crois que c'est irréfutable. Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Mais quoi qu'il en soit, c'est un des facteurs de tout un ensemble très paradoxal du refus, alors que les Russes avaient intérêt à se débarrasser de leurs Juifs. Même plus, par rapport à Israël, ils avaient intérêt à envoyer une cinquième colonne d'espions soviétiques parmi les Juifs. D'ailleurs, ils l'ont fait. L'État d'Israël, tout raciste qu'il est, non, il n'est pas raciste, était prêt à payer le prix, pourvu que les Juifs arrivent, on prend les autres aussi avec, et on s'en arrange. D'ailleurs, on l'a fait pour toutes les Aliotes. Il n'y a aucune idée à quel point des cinquièmes colonnes sont entrées en Israël. Vous savez que c'est une cinquième colonne. Et en même temps que toutes les Aliotes, en particulier de France, d'ailleurs, je dois vous dire. Bien. Ceci dit, c'est ce fait que je voulais mettre en évidence. Alors, je vais reprendre les choses très, très loin pour montrer la cohérence de ce premier enseignement. C'est la première réponse. Pour la grande majorité de ces matériaux, ils ont été emportés d'Égypte. Et pas seulement les matériaux matériels, physiques, aussi tout ce dont les Hébreux se sont imprégnés de la civilisation égyptienne et qui a été mis à l'abri, premièrement dans la construction du Mishkan et dans tout ce qui va être l'histoire d'Israël postérieure, qui est post-égyptienne. D'ailleurs, c'est quelque chose de très analogue que l'on vit à toutes les fins d'exil. La fin d'exil contemporaine, c'est le fait que les Juifs ont d'abord quitté l'Europe. Ils ont d'abord quitté l'Europe et le monde entier. Mais en quittant l'Europe, ils sont revenus imprégnés des valeurs de la civilisation européenne. Je ne sais pas ce qu'il arrivera de la civilisation européenne, un tout autre sujet. Mais, dans tous les cas, il est bien évident que les fondateurs de la société israélienne, revenant comme juifs, ont ramené avec eux les valeurs propres à la civilisation ambiante où ils avaient été exilés. Je pense que c'est clair. Et que c'est une des perspectives du projet messianique de ce mouvement, l'aller vers les nations, le retour à Jérusalem, dont je vous ai souvent parlé en vous citant Judas Lévi. Je vais le reciter encore une fois. Judas Lévi compare Israël au cœur de l'humanité. Cette image, qui est plus qu'une image, a été souvent employée de différentes manières. Il faut se méfier d'un israélocentrisme, c'est comme ça qu'on peut dire, exagéré et non justifié. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a ce mystère d'Israël qui traverse l'histoire de l'humanité, et on peut lire l'histoire de l'humanité à la manière qu'induit Judas Lévi, en la voyant comme un organisme unique, une sorte de Adam non, je peux employer un terme qui aurait des analogies avec autre chose. Une sorte de le mot m'échappe. Mais vous avez compris l'idée. L'humanité entière est un être, bon, qui a différents organes, différentes fonctions, comme chaque organisme, et donc qui a aussi un cœur. On peut admettre cette image. Judaïvi l'explique de la manière que lorsque chaque organe est atteint d'une maca quelconque, le cœur souffre deux fois. D'une part, en tant qu'il est le cœur de l'organe, et en tant qu'il est le cœur tout court. Et le cœur encaisse, si vous voulez, deux fois les coups que le corps reçoit. Et par cela, il explique, hein, se rattache à un verset d'Isaïe, un verset des Haftarot de consolation, c'est dans Nahamu, Nahamu, Ami, je voudrais que le verset me revienne, sinon vous allez m'aider. J'ai l'expression en mémoire. Kiflaim bechol chatotea. Qui? Kilakha.
Kiflaim bechol chatotea.
Il y a juste l'akra et kiflaim. D'accord. Parce que consoler Israël, c'est Sion dans le texte, parce qu'elle a reçu par double de sanctions de ses fautes. Une fois pour elle et une fois pour les autres. J'ai fait allusion de différentes manières dans différentes études. Il faut bien comprendre que par rapport au principe qu'il y a une solidarité absolue entre l'histoire d'Israël et l'histoire des nations. Il faut arriver à se refamiliariser avec cela, ce qui est une donnée essentielle du monothéisme hébreu de la Torah. C'est-à-dire Israël et les nations, c'est la même humanité qui a été créée par un Dieu un. Il y a une solidarité de l'histoire d'Israël et de l'histoire universelle, il y a une solidarité de l'histoire universelle avec l'histoire d'Israël. Depuis le temps de l'émancipation, surtout, les penseurs juifs ont été habitués à lire dans un sens, à comprendre l'influence de l'histoire universelle sur l'histoire d'Israël, comme si l'histoire d'Israël était un appendice de l'histoire de la civilisation ambiante. Depuis le ressourcement dans les études hébraïques à proprement parler, on s'habitue à la lecture inverse, et de savoir comment c'est l'histoire universelle qui est indexée à l'histoire d'Israël. Bon, peu de gens sont déjà habitués à lire l'histoire de cette manière. C'est-à-dire à partir des intuitions immédiates de la conscience hébraïque, lisant l'histoire universelle. Alors que la plupart des intellectuels juifs, surtout depuis l'émancipation, étaient habitués au principe inverse, de lire l'histoire juive à partir des données immédiates de la conscience universitaire, c'est-à-dire la conscience grecque. Je ne sais pas si vous voyez le renversement qu'il faut faire pour arriver à se réajuster. Ça commence déjà un peu, on commence un peu à se familiariser à cela, même en milieu non-juif, mais enfin dans une élite très, 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 très restreinte. Quoi qu'il en soit, je vais vous donner tout de suite deux exemples de ce que je veux dire, pour bien mettre ça en évidence, et on revient au sujet. Regardez, les deux grands événements contemporains, là je me réfère aux analyses surtout d'Engrenier à ce sujet, ont été Auschwitz et l'État d'Israël. Bon, à Auschwitz, il faut indexer Hiroshima, c'est le même drame, Auschwitz et Hiroshima, c'est le même ensemble, et puis l'État d'Israël. Un dans un sens négatif, l'autre dans un sens positif. Eh bien, au moment de la Shoah, il n'y a pas que le peuple juif qui a été atteint. Le peuple juif a été atteint centralement, dramatiquement, tragiquement. Il a été atteint de manière paroxystique, bon, vous avez compris, et parce que l'objectif des nazis, c'était l'anéantissement d'Israël. Mais énormément d'autres peuples ont été atteints. La civilisation entière a été secouée. Il y a eu 50 millions de victimes, pas seulement les 6 millions juifs. Seulement, il y avait une différence. C'est pour les autres, c'était une persécution effroyable, et à l'échelle individuelle, il y avait des choses plus qu'analogues. Mais pour Israël, l'objectif était la destruction, je vais vous employer un mot savant, ad nihilo, jusqu'au néant. C'était ce qu'on appelait la solution finale. C'est en même temps que ça arrive. Lorsque l'événement touche Israël centralement, il touche aussi l'humanité. Et alors ça, c'est l'exemple négatif de ce que je voudrais mettre en exemple. Exemple positif. Lorsque le peuple juif a retrouvé son indépendance nationale, il l'a retrouvé en même temps que tous les peuples colonisés. C'est un processus qui a commencé en 1917, et la première décolonisation, c'était les Indes. Vous vous rappelez de cela, hein? Si vous avez les détails historiques en tête, et cette date de 1917 est très importante pour cet exemple, mais c'est corollaire à, au fait qu'énormément de peuples ont retrouvé leur indépendance nationale. Mais là encore, il y a un indice de paroxysme différent pour Israël. C'est que ces peuples-là existaient en tant que nation. Elles existaient en tant que nation opprimée, en tant que nation colonisée, mais elles existaient en tant que nation. Alors que le peuple juif n'existait pas en tant que nation. Il existait en tant que nation dispersée, indexée à d'autres cités étrangères. Et la restauration de la nation d'Israël a été un phénomène ex nihilo. Alors que pour les autres peuples, ce n'était pas du tout un phénomène ex nihilo. Et ça va ensemble. C'est-à-dire 1917 est une date à l'échelle universelle. C'est la déclaration Balfour, mais c'est en même temps le début de la décolonisation. C'est-à-dire le début d'une longue période, on est juste au début, où l'Empire d'Europe, qui a été fondé par Rome il y a 2000 ans, avec les différentes succursales qu'il y a pu avoir, ça a pu être l'Empire français, l'Empire allemand, l'Empire anglais, l'Empire portugais, l'Empire espagnol, l'Empire italien, mais ça c'est l'Empire romain. Quelles que soient les filiales à travers lesquelles c'est passé, cette civilisation-là, que la tradition appelle Édom, est en train de s'achever en tant qu'empire. D'ailleurs, un des signes dans le monde spirituel de cet empire, c'est Vatican II, où la chrétienté décide qu'elle n'est plus une religion universelle, c'est-à-dire qui s'impose à tous, mais qu'elle tend à redevenir une religion universaliste, c'est-à-dire chacun étant lui-même pour un salut commun. Ce que je vous dis là est très schématique et très anticipé. Il n'y a qu'une élite chez les chrétiens qui commence à savoir déjà cela. Mais c'est le point de départ de Vatican II. C'est le point de départ de la nomination d'évêques, d'archevêques, bientôt de cardinaux, noirs, jaunes, rouges, juifs, et pas seulement italiens. Quoi. Je ne sais pas si vous voyez la révolution qui se produit. Eh bien, le principe est important. C'est-à-dire que il y a un lien très profond que très peu de juifs perçoivent parce qu'ils ont été habitués à l'équation ghetto. À l'équation ghetto, qui était une sorte de protection vis-à-vis d'un monde extérieur plus que hostile, et on a perdu le sens de cette unité du genre humain qui passe par Israël. C'est très schématique ce que je vous dis là, mais très important à remettre en évidence pour cela. Et alors, effectivement, il y a une sorte de prise de conscience inconsciente, peut-être, en tout cas sourde, mais profonde chez les nations, que Israël est chez eux un corps étranger, mais une sorte de parasite, mais c'est une sorte de parasite grâce à qui la vie est possible. Vous voulez que je vous raconte une anecdote? Je vais vous raconter, quand je vous dis une anecdote, c'est toujours une expérience vécue. J'ai fait allusion à cela hier de façon un peu formelle. En particulier, dans les pays, moi j'ai vécu ça en Afrique du Nord, mais dans les pays arabes, lorsque les communautés juives, au moment de la fondation de l'État d'Israël, ont décidé de quitter les pays arabes, la réaction des populations arabes, je ne parle pas des gouvernements, des hiérarchies, même certains prêtres, a été une réaction de deuil. Les juifs vont nous quitter, on est perdus. En particulier dans les montagnes de l'Atlas. Je vous cite ça parce que je sais qu'il y a un film de l'agent juif qui filme cela. C'est-à-dire, vous savez qu'il a existé des communautés juives berbères au sud marocain. Vous savez cela. C'est autre chose que des Arabes. Alors les berbères, de façon extrêmement officielle, ont demandé, en suppliant, en pleurant à la communauté juive de ne pas quitter leur village, de ne pas quitter leur ville, parce que la vie s'en irait avec eux. Et c'est un peu massif comme exemple, mais c'est un peu ce qu'ont ressenti toutes les nations. Si déjà les Juifs partent, alors il faut qu'ils payent le prix fort, parce qu'ils emportent avec eux le tout à arrêter, le bien du pays. Il faut le voir à vue très, très comment dire, nuancé. Mais c'est un fait qui n'a pas d'exception. Je vais raconter une petite anecdote que j'ai vécue, moi, personnellement. Il y a 2 ans, j'ai fait partie d'un pèlerinage. Au Maroc, c'était l'époque où c'était déjà plus tellement clandestin les pèlerinages juifs au Maroc, et je suis allé dans une petite ville qui était le berceau d'une des branches de ma famille. S'il y a des Marocains parmi vous, vous avez entendu parler de Debdou. Debdou, c'est une ville sainte du Maroc, la ville de Kohanim. Il y a 2 villes de Kohanim en Afrique du Nord, c'est Debdou et Djerba. Je ne sais pas si vous savez ça. Et en tout cas, on est rentré à Debdou. Et on était une 50aine de juifs, la moitié français, la moitié israélien. Et puis, on avait un guide marocain, mais enfin un guide purement touristique. Dès qu'on est rentré dans ce gros village, la rumeur s'est répandue. Il y a des juifs dans le village. Et le maire du village est arrivé quelques minutes après, suivi de gens qui portaient des caisses de boissons, de gâteaux. Et alors, on a visité le... Je me rappelle très bien de la scène. On a visité le quartier juif. Et puis, on est rentré dans une maison qu'avait habité une des participantes de ce voyage. Imaginez ces petites maisons de tout du 14e siècle marocain. Alors, je me rappelle très bien, je vais vous traduire en français, ce qu'a dit l'habitante, une vieille arabe marocaine, l'habitante de la chambre où était née l'israélienne qui revenait voir là où elle habitait, a dit... depuis que les juifs sont partis, tout est parti avec eux. Mais c'était sincère, ça a été enregistré d'ailleurs. Alors, vous comprenez, c'est un peu dans le sens de cette question. Or, cette consigne que Moïse a reçue de Dieu, de demander aux Hébreux qu'ils demandent à leurs voisins, c'est le miracle, imaginez la haine réciproque de l'Égypte et des Hébreux au moment de la sortie d'Égypte. On étudie à propos de Shabbat Hagadol, on leur avait préparé la plus grande surprise qu'ils pouvaient avoir. Leur divinité était préparée pour être abattue pour le sacrifice de Pessah. Et quand les Égyptiens demandaient pourquoi vous préparez ces agneaux, alors on leur disait ben parce que votre divinité va être détruite. Et vous savez que c'est peut-être une des origines lointaines des accusations au moment de Pâques chez les chrétiens. Qu'est-ce que c'est de meurtre rituel. De meurtre rituel sur l'hostie. Bon, et à toutes les barbaries sont possibles. En fait, de quoi s'agissait-il ? Effectivement, les Égyptiens, et qui avaient une religion astrologique, adoraient comme dieu principal la divinité qui représentait le signe du zodiaque dominant du temps. Or, la sortie d'Égypte s'est produite le jour où on est sorti du signe du bélier pour entrer dans le signe du taureau. Je ne sais pas si vous savez ça. Je pense que vous ne savez pas ça oublier. Mais on leur annonce qu'on va changer de théologie. On sort du bélier, qui est le premier-né des signes du zodiaque. Et alors, on va abattre le fils du père. Vous voyez les chrétiens, d'où ils ont pris ça. Et alors, il s'est produit un très grand miracle, c'est le miracle du Shabbat Hagadol, du 10 Nissan, où on a commencé à préparer l'agneau du sacrifice pour le 14 Nissan. Normalement, les Égyptiens auraient dû massacrer les Hébreux à ce moment-là. Et frappé de panique, la sortie d'Égypte s'est faite. Et alors, les Hébreux ce temps-là n'étaient pas comme les Hébreux d'aujourd'hui. Les Hébreux d'aujourd'hui se demandent, mais qu'est-ce que vont dire les Égyptiens ? Alors que les Hébreux ce temps-là, bref, c'est extraordinaire comme parallèle. Eh bien, c'est très étonnant. Et à ce moment-là, les Égyptiens ont comblé de cadeaux leurs voisins hébreux. Et nous avons des midrashim, on voit les femmes égyptiennes supplier les femmes hébreux de leur faire l'honneur de porter leurs bijoux. Et c'est avec ces bijoux qu'on appelle l'odor. D'ailleurs, on n'a pas les bijoux des femmes, les bijoux des hommes. En fait. Et alors, d'où ça vient ? Eh bien voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'histoire d'Abraham, vous rappelez de ce dont je vais parler maintenant. Dans l'histoire d'Abraham, il y a un épisode qui est qu'Abraham a dû intervenir dans une guerre qu'il y avait entre les rois du pays parce que son neveu Lot était pris dans cette guerre. Et puis finalement, Abraham est victorieux de cette guerre. Il y a un dialogue entre le roi de Sodome, écoutez bien, le roi de Sodome et Abraham. Et le roi de Sodome propose à Abraham de prendre sa part du butin. Et Abraham refuse. Et Abraham a dit ce verset terrible. La première partie du verset m'échappe. Tenli, en effet, je vais rechouche kachlach. Moi, je casais. Non, c'est pas comme ça.
C'est le maire.
C'est le maire. Non, c'est le roi de Sodome, c'est ça. C'est ça qui me gênait. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les prisonniers, le nefesh, les personnes, va rechouche kachlach, et le butin, tu le gardes. Et Abraham répond, même pas un lacet de souliers, je garderai qu'on ne dise pas, tu as enrichi Abraham. Alors regardez ce qu'Abraham a entendu, donne-moi les personnes, c'est le roi de Sodome qui dit Abraham, donne-moi les personnes, ces personnes qui étaient dans le clan d'Abraham, prisonniers de guerre, et qui auraient pu devenir des prosélytes d'Abraham, les personnes, et leur rehouche, les valeurs. Abraham a tout abandonné. C'est une réaction des vertus d'Abraham. Abraham, c'est le chesed absolu. Il est intervenu lishma, gratuitement. Il ne veut pas être payé en rien. Même pas. Il y a une espèce ici de mehdal, comment on peut traduire ça en français? Depuis qu'il se passe des mehdalim dans le pays, je n'ai plus traduit en français. Comment on dit mehdal? Ben, non. C'est un pancher, mais ce n'est pas du français. Comment on dit mehdal en français? Une fâche là, mais c'est pas.
Accident. Oui,
c'est une spécialité juive. Bon, enfin, merde là. Un mahdil ben kodesh lecho. Surtout au mahdal, il y en a beaucoup. Et alors, ça va être payé très cher. C'est-à-dire, il va falloir aller dans les civilisations où ces personnes et ces valeurs sont tombées, se sont perdues, pour aller les sauver. Alors, vous entendez le thème en question, hein? Et effectivement, lorsque Dieu va dévoiler à Abraham l'éventualité de l'exil, il le fait en ces termes: Yadoa, Teda, Kigir, Iye, Zaracha, Beret, Olahem, Alba, Merchana, va. והעבדון ואינו אותם ארבע מאות שנה, שם פעם ורסי, וגם את הגוי, אשר יעבודו דן אנוכי, ואחריכן יצאו בלחוש גדול. Je vous traduis le verset en schématisant. Savoir, tu sauras que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le sien. Ils seront asservis, persécutés, et la nation qui les aura persécutés, je la jugerai, et après ils sortiront avec un grand, on traduit, butin, rechouche. Alors c'est cette idée que des termes que j'ai employés tout au début de mon exposé, les valeurs, le rechouche, ils sortiront avec de grandes valeurs. Quelles valeurs? C'est le même mot qu'il y a dans l'épisode de la guerre d'Abraham. Abraham a abandonné le rechouche, il faut aller là où le rechouche se trouve pour sauver le rechouche. Est-ce que c'est clair? Alors il s'agit de ces valeurs-là, ce rechouche-là, qui primitivement, tant du point de vue du Nefesh que du point de vue des Kelim de ce Nefesh, fait partie de l'identité d'Israël a priori. C'est une partie de l'identité d'Israël a priori qui ne s'est pas rassemblée au moment du rassemblement d'Israël au temps des patriarches, qui est restée en dehors et qu'il faut aller recueillir et ramener, sauver, transfigurer, cachériser. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, c'est ce problème du Rechouche. J'étais frappé par un lien, et je n'ai pas de source sur ce que je viens de vous dire là. Rechouche, c'est les mêmes lettres que Koresh. Or, Koresh, c'est Cyrus, qui est le premier Mashiach, d'après les prophètes, qui ramène l'exil d'Israël après l'exil de Babel, après le deuxième exil. Vous savez qu'il y a eu la déclaration Cyrus, comme il y a la déclaration Balfour. Okay? Bon, je referme la parenthèse. Donc ça, c'est la première réponse. C'est ce Rechouche, en vue duquel Israël est descendu dans cette civilisation égyptienne. Et je voudrais ajouter quelque chose d'important, qu'il n'a pas été, lui, Israël, capable de recueillir, et c'est miraculeusement que Dieu intervient pour qu'il le recueille quand même à la fin, pour pas que cette histoire n'ait pas de sens. Vous voyez à quoi ça se rattache? C'est ce que nous avons étudié à la paracha de Bo, qui a nir bati et libo et le avada le manchiti et tota et le berkibo. Il y avait aussi une autre fonction, il y a tout un faisceau de fonctions dans la galoute. Une autre fonction, c'est éclairer les Égyptiens sur ce qu'est la véritable révélation de Dieu aux hommes, qu'ils n'ont entendu qu'à travers le paganisme astrologique. Et alors, la mentalité religieuse de cette civilisation, c'était que la société humaine, comme tous les phénomènes dans le monde, y compris les espèces animales, sont soumis à des structures fatales de mécanismes, de fonctionnement de mécanismes, des lois naturelles. C'était ça, la mentalité égyptienne. C'est la raison pour laquelle les sages, qui étaient des mages du pharaon, n'arrivaient pas à expliquer les rêves que Joseph a expliqués. Ce sont des rêves qu'un enfant du Talmud Torah nommé Joseph peut expliquer à n'importe quel pharaon. Un dérèglement de l'économie. Quand vous vous rappelez des rêves du pharaon, je ne reviens pas dans le détail, ça leur était impensable de penser un dérèglement de l'économie. J'ai repensé à cela souvent, chaque fois qu'il y a eu, dans l'Empire soviétique, justement, toutes ces purges des économistes, parce que les récoltes ne correspondaient pas aux prévisions. Vous vous rappelez de ça? Or, comme on dit aujourd'hui en Israël, la conceptia, la conception ne peut pas se tromper. C'est donc les économistes qui sont fous et qu'il faut emprisonner. Vous avez compris le problème. Ils avaient une mentalité de ce que j'appellerais l'orthodoxie marxiste. C'est-à-dire que l'économie est soumise à des lois scientifiques et ça ne peut pas bouger. Or voilà que le pharaon hébraïse, il rêve, il hébraïse en rêve. Il rêve un dérèglement de l'économie. Il n'y a qu'un hébreu qui peut expliquer ça. Vous avez compris la grande différence de mentalité de civilisation. Et pourquoi je vous ai parlé, pourquoi j'ai introduit cette parenthèse, je vais retrouver le fil. Non, mais pourquoi j'ai parlé de Josué? Non, ne me dites pas trop de choses à la fois que je repeigne le fil. Oui. La deuxième fonction, c'est indépendamment de ce rechouche qu'il fallait sauver. La deuxième fonction, c'est de révéler la véritable signification de l'histoire humaine, du monde, aux Égyptiens. Et ils n'ont pas réussi. Alors c'est pourquoi Dieu dit à Moïse, prends patience jusqu'à ce que je le fasse. Parce que ce que vous auriez dû faire, vous n'avez pas réussi à le faire. Il y a aussi d'autres facteurs de cette mission, entre guillemets, de cette fonction de la galoute. Et je reprends le verset, « Les ma'an shiti ototai ele bekirbo » afin que je place ces signes-là qui sont les miens en son sein. Ce que Israël, le témoignage qu'Israël aurait dû porter dans la civilisation égyptienne, qui n'a pas réussi à porter, c'est à travers les 10 plaies que finalement l'Égypte va découvrir qu'il y a une providence qui gère l'histoire du monde et pas le mécanisme fatal des lois astrobiologiques. C'est schématique, mais je pense que c'est suffisamment clair. Et je pense souvent à ces thèmes-là lorsque je pense à ce qui se passe dans la diaspora européenne en particulier, que je connais mieux, mais c'est vrai aussi pour la diaspora américaine. La principale justification que les juifs de diaspora se donnent pour la diaspora maintenant qu'Israël existe, indépendamment de la solidarité qui est un autre problème, c'est qu'on a une mission chez les nations. Or, tout se passe comme si c'est un cliché qu'on utilise, mais qui n'a pas de contenu. Chaque fois que je demande à des autorités, que ce soit rabbiniques ou universitaires, politiques, de la communauté juive, mais quelle est cette mission? On ne sait pas me répondre. Et je crois que c'est la question de fond. Il faut qu'on s'explique là-dessus. Si les Juifs ont une mission en Europe, quelle est cette mission? Et alors, très souvent, on me répond naïvement, eh bien, d'apprendre au goyim, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, il y a deux réponses. D'abord, ça fait 2000 ans qu'ils l'ont entendu, et qui s'occupe de leur apprendre ça? C'est les curés, c'est pas les rabbins. Les rabbins s'occupent de leurs juifs et ils ont du travail avec ça. et en fait, on dit, bon, enseigner les valeurs de la Torah. Vous savez qu'il y a énormément d'enseignants de très haut niveau, juifs en Europe, en France en particulier. Mais ils enseignent tout sauf la Torah. Et en général, ils enseignent l'athéisme. La théologie, pas la théologie. Ils enseignent la théologie. Alors imaginez un jour là. La réaction de frustration de ces braves goy qui attendent d'Israël chez eux, qui attendent de leurs juifs la révélation de ce qu'ils attendent, et ils attendent. Et puis finalement, la frustration de la femme de Poutiphar qui voulait Joseph et qui n'a que le travesti de Joseph, son déguisement égyptien. Bon, je referme la parenthèse, on est toujours dans l'histoire de l'Égypte avec ça. Et effectivement, sur 100 professeurs d'université juive, je fais une espèce de statistique abstraite, schématique, vous en avez 99 qui sont athées. Et l'intelligentsia juive prétend qu'elle est en France pour enseigner la parole du Dieu vivant, pour citer les Dominicains. Vous voyez à peu près le drame de ce qui se passe. Alors, ça va un peu dans ce sens. Alors ça, c'est la première réponse. Hein. La majeure partie de ces matériaux, c'est les valeurs de la civilisation égyptienne dont Israël s'est chargé, pardon, de l'Égypte. J'ouvrirai une parenthèse pour la tribu de Lévi. À travers la tribu de Lévi, beaucoup de ces valeurs sont normalement, organiquement introduites en Israël. La tribu de Lévi, comme vous le savez peut-être, vous ne le savez peut-être pas, n'a pas participé à l'esclavage d'Égypte. Les Égyptiens ont reconnu dans la tribu de Lévi la tribu des prêtres d'Israël avant l'être, et par conséquent, ils n'ont pas participé au camp de concentration de l'Égypte. Donc, à travers la tribu de Lévi, c'est passé plus organiquement, disons. Mais pour les autres tribus, eh bien, c'est miraculeusement, pardon, qu'on a pu emporter ces valeurs de Dieu. Et ensuite, à travers la suite de l'histoire, il faut se remémorer cela. Égypte, cette Égypte-là a disparu. Elle est restée dans les bibliothèques, dans les musées, dans les sables de Abou Simbel, je ne sais pas comment ça s'appelle. Elle est rentrée dans les sables. Vous vous rappelez du verset quand Moïse a enterré l'Égyptien dans le sable. Mais il a enterré l'Égypte dans le sable. Okay. Et tout ce qui a eu de valeur vivante est intégré dans l'identité hébraïque qui sort d'Égypte et hébraïsée. La deuxième réponse, pour un certain nombre de ces matériaux, je cherche un autre mot, aidez-moi à trouver un autre mot, matériaux c'est trop matériel, de ces... Hein? Non, des choses qui étaient nécessaires pour fabriquer le Mishkan. Des... Ah, oui, bon. Le Midrash explique, bon, vous avez compris l'idée. Le Midrash explique en disant, ce sont des réalités qui ne sont apparues miraculeusement que dans le désert, en ce temps-là, dans l'histoire du monde, parce qu'on en avait besoin pour le Mishkan. C'est une autre réponse. En particulier, Orot Tehashim, Vaaseshitim, vous vous rappelez du verset. Orot Elim Meodamim, Orot Tehashim, Vaaseshitim. Orot Tehashim, personne ne sait quel animal c'est le Tahash, les peaux de Tahash. Et ce Tahash, alors le Talmud explique, c'est un animal mystérieux qui est apparu dans le désert parce qu'on avait besoin de sa peau. Pour... alors, on a fait la peau. Non, non, ça c'est les peaux de bélier. Orot Elim Meodamim. Ça, c'est Tintin Rouge. Vérolot et Hachim, c'est... Donc, ça, c'est la deuxième réponse. Voilà, c'est une question imprudente, ça nous a pris un quart d'heure. Bon. Écoutez, je vais essayer d'intégrer dans le cours, si vous voulez, mais je voudrais que vous ouvriez le livre. Et en attendant que vous me posiez ma question, je dis une bracha. Je suis un peu Ken, je vous dirai l'image du Midrash sur toute cette explication que Israël a vidé l'Égypte en sortant d'Égypte comme un pêcheur vide un étang avec sa réchette, son filet, et qu'il enlève tous les poissons. Bravo de ça. Bien, quelle est votre question?
Vous avez dit que
le
Rekouch c'était aussi des Nefashot.
Non, il y a Nefesh et Rechouche. Je donne un exemple. Il y a Nefesh et Rechouche. Il y a les personnes et il y a les valeurs.
Alors les personnes, c'était qui?
Oui, l'élève, bien sûr. Seulement Moïse n'a pas eu le temps de les éduquer. C'est-à-dire, ça on a étudié une autre fois, je ne reviens pas là-dessus, mais ce qu'il y a, c'est que Moïse sait exactement ce qu'il fait lorsqu'il intègre l'élève en Israël. C'est une des fonctions, encore une fois, de la galoute, de ramener la Erevav. Et pourtant, on voit que Dieu s'y oppose, mais en fin de compte, il accepte. Et alors, en fait, je voudrais vous donner l'explication fondamentale, parce qu'elle est importante. Le Erevav et les Hébreux ont ensemble accepté la Torah au Sinaï. Mais il y avait une différence d'essence, de nature entre les deux. Les Hébreux étaient descendants des patriarches, il y avait eu 6 générations du Derech Eretz des patriarches, Kadma Derech Eretz la Torah. Ils ont été formés à une culture préalable à la Torah qui rend la Torah possible. Est-ce que c'est clair? Et malheureusement, cette culture hébraïque des Hébreux, je dis hébraïque mais je change, des Hébreux, pourquoi vous croyez que je parle de la culture hébraïque de Tchernichowski ou de... Cette culture des Hébreux, le dérèglement des patriarches manque à la plupart des juifs eux-mêmes aujourd'hui, parce qu'ils l'ont perdu à travers l'exil. Et en particulier chez les juifs pieux, c'est le plus grave. Chez les juifs pas pieux, bon, on arrangera tout en même temps. Mais quand il y a la Torah sans le dérèglement, c'est très grave. Je ne parle pas de la politesse, je parle du Derech Eret à Ivri, le fait que Israël est sorti de l'identité hébraïque de l'origine, Abraham et Ivri. Ça, c'est ça qu'il faut retrouver. Et le drame de la société israélienne, c'est que vous en avez une partie qui a ce Derech Eret, c'est pas la Torah, et une partie qui a la Torah et pas le Derech Eret. Et grâce à Dieu, il y a ceux qui ont le Derech Eret, c'est la Torah. N'oubliez jamais ça. Okay, il y a même deux gens. Torah et Derech Eret, et Derech Eret, c'est Torah. Mais on ne fait jamais les choses en une seule exemplaire. Et effectivement, ce n'est pas pour rien que la Mishnah insiste là-dessus. Il y a fait Torah in Derech Eret. Très souvent, quand j'enseigne ça dans certains milieux, on me dit, mais on ne comprend pas. La Torah, ça implique le Derech Eret. Je vais relire la Mishnah. Si la Mishnah dit, il y a fait Torah in Derech Eret, c'est que ce sont deux niveaux très différents et qu'on est habitué que, par principe, ça doit être unifié, on ne voit pas que ce n'est pas la même chose quand ce n'est pas unifié. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire qu'il peut exister un Derech Eret sans Torah et puis exister une Torah sans Derech Eret. Vous avez une autre Mishnah qui dit « Yemen Derech Eret sans Torah ». Yemen Torah en Derech Eret. Vous voyez que ce n'est pas simple comme problème. Or, quel Derech Eret ? C'est le Derech Eret, Derech Eret Israël. Je vais vous dire un petit chidouche, je vous ai dit une fois. Ce que dit le Talmud Kadma, Derech Eret, la Torah, le Paim Shana, il faut le lire comme c'est raconté dans la Torah. Kadma, Derech Eret Israël, la Torah. Et la preuve, c'est le Lech Lecha pour Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham ? Il a fallu 2000 ans pour que ça se réalise. Lech Lecha et l'Eret Israël, et là-bas, on a rendez-vous pour la Torah. Vous voyez ? Kadma, Derech Eret Israël, la Torah. Est-ce que c'est clair ? Alors vous voyez que. À quel point il faut relire la Torah comme elle est écrite, c'est-à-dire en hébreu d'ailleurs, et sans jeu de mots. Mais je vous donnerai une autre allusion sous la forme du Midrash. C'est le début de la paracha de Béchalach. Vaï, Béchalach, paro et aham, velo naham elokim, derecheret pelishtim, kikarobu. Le pshat, c'est. Et il arriva, lorsque le pharaon eut renvoyé le peuple, Dieu ne les a pas conduits par le chemin du pays des Philistins, Derech Eretz Philistim, qui carogou, parce qu'il était trop proche ce chemin, qui amar Elokim, car Dieu s'était dit, Peninachem Aram Birota Milhama, Shabon Israël. De peur que le peuple ne regrette d'être sorti d'Égypte en voyant la guerre, et qu'il s'invente un Shalom Marchav historique, et qu'il retourne en Égypte. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Vous avez remarqué, les délégations de Shalom Marchav qui vont en Égypte. Et alors, j'ai pas lu ça dans les pieds, je lis ça dans Marie. Et alors, ça c'est le pshat. Mais il y a une autre lecture. Et Dieu ne les a pas conduits par le Derech Eret des Philistins. Kikarobhu, parce que lui est proche d'eux. Lui est proche d'Israël. C'est-à-dire, il y a un Derech Eret Israël. Et elle déréférait ce Plishtim. D'ailleurs, c'est notre problème aujourd'hui. C'est ou les Israéliens ou les Palestiniens. C'est-à-dire ou Israël ou les Plishtim. Vous voyez, et où ça se produit ? Juste à Gaza, qui est le chemin en question. Déréférait ce Plishtim, c'est Gush Katif. Je ne sais pas si vous savez ça. Vous voyez, on est rassurés. C'est bien nous qu'il s'agit. Dans ces textes-là. Et alors, voilà donc quel est le problème. La différence entre les Hébreux et Israël au Sinaï, ce n'était pas d'accepter ou de refuser la Torah, c'est l'approche à la Torah était radicalement différente. Et lorsque Moïse a tardé de redescendre de la montagne, il s'est avéré que les Hébreux avaient divinisé Moïse comme médiateur, et c'est pourquoi ils ont demandé un symbole religieux, l'idole du veau d'or, pour remplacer Moïse qui tardait de redescendre sur la montagne. D'une certaine manière, sa première phrase, je le dis de manière aussi claire, j'attendais que ça s'arrête une minute. C'est déjà du christianisme avant la lettre. L'adoration de Moïse par le Hébreu, c'est déjà la théologie chrétienne. Je vois, c'est clair. Et vous pouvez raccrocher.